bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Christine Masson et Yann Legendre pour leur ouvrage « Aller au cinéma ou faire l'amour » aux éditions textuelles. Donc une petite présentation des auteurs. Donc Christine Masson, journaliste, passionnée de cinéma. Vous avez travaillé dans de nombreux médias, la radio, Europe 2.
Avant ITFM.
Vous avez aussi oublié pour la télévision, France 2.
10 ans pour Canal+.
Canal+.
Via l'agence Capa.
Et Cinéma aussi, c'est la chaîne aussi.
Oui, j'ai un magazine qui s'appelait Auteur-Auteur, où un cinéaste parlait d'un autre cinéaste.
Et évidemment, vous travaillez, vous présentez avec Laurent Delmas l'émission, le magazine qui s'appelle On aura tout vu sur France Inter, tous les samedis à 10h. Voilà. Et Yann Legendre, vous êtes graphiste, illustrateur, vous êtes entre Chicago et Bordeaux maintenant, c'est ça? Et vous êtes directeur artistique, je crois, de la édition Inculte. Et bien, vous travaillez évidemment pour nombreux journaux, pour Télérama, Libération, avec les éditions textuelles aussi, vous travaillez aussi avec les DVD Criterion Collection aussi, vous faites des pochettes aussi de DVD, donc vous avez une grande activité. Vous avez magnifiquement illustré le livre de Christine Masson. Ce livre, donc, c'est 30 ans de rencontres avec des cinéastes et des acteurs. Et c'est à la fois un portrait de votre passion pour le cinéma, mais aussi un témoignage concret de la vie d'un critique. Je trouvais ça assez passionnant, ces deux aspects du livre. Et la question que je me posais, le cinéma pour vous, c'est une passion. La première image de cinéma dont vous vous rappelez, mais la première image, pas le premier film, est-ce que vous aviez ce souvenir-là?
La première image, ce serait un Walt Disney.
Lequel?
Bambi. Mais c'est très très loin. J'ai un souvenir un peu confus, en fait, de ces premières images. Je la regardais comme tous les enfants regardent des films, mais sans être ébloui par ces premières images, puisque le premier choc, comme je le raconte dans le livre, est venu plus tard à 14 ans avec Family Life. Jusque-là, je voyais des films comme un divertissement, mais ce n'ont pas été des images prégnantes comme l'a été ce film Family Life.
Oui, parce que vous dites carrément que c'est votre deuxième naissance.
Oui. Oui, c'est-à-dire que je lisais beaucoup, comme pas mal d'adolescents, je puisais dans les livres pas mal de choses, et puis un jour, un ami dont le père animait un ciné-club m'a amené à cette séance de Family Life de Ken Loach. Et ça a été c'est un bien grand mot, deuxième naissance, mais ça a été une révélation par rapport à l'adolescente que j'étais, l'adolescente qui était à l'écran. J'ai l'impression que c'était presque un reflet et que ce film me racontait mon adolescence à moi, mes complexes, mes problèmes, et j'ai l'impression que le film m'a parlé. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans une salle, mais qui s'adressait à moi, et que les répliques du film m'étaient destinées. Je l'ai pris en plein cœur, et en sortant, je me dis, ah, c'est ça le cinéma, ça peut parler aussi intimement qu'un livre. Et c'est une vraie rencontre. Et à partir de là, j'ai pris le cinéma au sérieux, je suis allée voir d'autres choses, d'autres films, mais ça a été un choc énorme. Je suis même émue en parlant, parce que je l'ai gardé en moi pendant des années, et comme je le raconte dans le livre, seulement il y a 2 ans, j'ai rouvert cette boîte pour savoir pourquoi ce film m'avait à ce point choqué et marqué, et j'ai compris, c'est comme si j'avais fait un retour en arrière et que je m'étais revue, moi, à 14 ans, avec mes problématiques à travers ce film, qui contient bien plus de choses, bien sûr, qu'une jeune fille de 17 ans à l'époque, comme cette Janice dans le film, qui est bien sûr une étude de la moyenne bourgeoisie anglaise, du traitement de la folie dans l'Angleterre, des 70s, et puis avec tout le savoir-faire de Ken Loach que j'ai découvert après à travers d'autres films. C'est un film important pour moi, mais c'est un film important pour plein de gens. C'est-à-dire qu'après, j'ai découvert autour de moi énormément de gens qui avaient été aussi, pour lesquels ce film avait été un point de départ.
En lisant votre livre, on voit que vous avez un rapport assez on va dire, romantique, très adolescent, assez juvénile par rapport à au cinéma. Même vous dites, c'est quelque chose que vous avez dit à Coris Maki, je suis trop romantique avec le cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule?
C'est-à-dire que, j'ai encore une vision adolescente, c'est-à-dire que j'imprime énormément sur... l'écran imprime sur moi, j'imprime sur les sentiments, j'ai l'impression que ces gens-là sont des modèles, donc moi, des modèles dans ma propre vie. C'est des comportements que j'adopte, que je comprends. Je suis presque premier degré parfois par rapport à des histoires. Je prends ça extrêmement... de façon presque ça s'incarne en moi quoi. C'est une vision très très romantique, très romanesque. L'univers de Coris Maki par exemple est un univers qui me touche énormément. J'ai l'impression de connaître ces gens, d'être en empathie avec eux. Bien sûr, j'ai un recul critique par rapport au film, à la forme, aux intentions du metteur en scène, mais je suis extrêmement impliquée dans ces histoires. C'est ce rapport-là que j'entretiens avec les films.
Et pour continuer sur cette thématique-là, à un moment, vous dites « j'attends beaucoup, trop du cinéma ».
J'attends qu'il me donne des réponses dans ma vie. J'attends qu'il me donne des réponses par rapport à l'amour, à l'amitié, à la famille, parfois des scènes... m'explique des choses que la vie ne me fait pas comprendre et que je vois pas dans la vie et que je vois sur un grand écran et je dis « Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se règle » et ça m'aide dans ma propre vie ensuite à régler des choses. Ça paraît énorme de dire ça, mais je le vois mieux quand c'est en gros plan sur le cinéma que quand vous êtes en face de moi. C'est-à-dire que ce que j'entends dans le cinéma, peut-être que je l'entends mieux que dans la vie, du coup, ça me fait le mieux l'entendre dans la vie.
Oui, vous avez un rapport, c'est avec un moment où je crois que vous comparez la salle de cinéma à un temple, carrément, le cinéma comme une religion.
Oui, moi, je me considère un peu comme une nonne, parfois, dont mon Dieu serait le cinéma. Quand j'entre dans une salle de cinéma, c'est comme dans une église. C'est-à-dire que je rentre en me disant, il va se passer quelque chose, il ne se passe pas toujours quelque chose, mais... je vais en sortir différente. Et ça se passe parfois. Parfois, on sort d'un film différent. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit un jour, je vois sur une affiche de film sur les Champs-Élysées, Mort à Venise. Je me dis, je vais voir un polar. Et il me dit, je suis sorti, j'ai vu un des plus grands films de ma vie. Vous voyez comme un film peut transfigurer quelqu'un. D'un coup, c'est un vrai... ça peut être un apprentissage, un film, ouais.
Alors, je me suis posé la question, quelle pratique vous avez de la cinéphilie? Je me dis, est-ce que vous avez des jours particuliers pour aller au cinéma, des horaires particuliers, ou est-ce que vous y allez seul, accompagné? C'est des questions qu'on ne trouve pas dans le livre, j'étais curieux de savoir.
Quand on est journaliste de cinéma comme nous, on voit les films en projection de presse. Alors, ce sont des séances, c'est magnifique, la copie est neuve, il n'y a pas de publicité avant, personne ne parle dans la salle... on prend des notes, etc. Il y a une espèce de religiosité, justement. Mais j'aime bien mélanger les deux. C'est-à-dire j'aime bien aller en projection de presse et aussi aller voir des films en salle, comme tout le monde. Surtout des comédies, parce que là, on a des vraies réactions, parce que les journalistes, quand ils voient des comédies, sont pas très... il n'y a pas beaucoup de réactions, pas beaucoup de rires dans la salle. Donc, c'est pas très bien pour le film. Donc, c'est bien de le voir entouré de vrais spectateurs. Après, j'essaie d'aller dans les salles très différentes à Paris. J'essaie de faire le maximum de salles possibles. Par exemple, il y a le Luxor qui vient de s'installer à Barbès, que je fréquente de plus en plus. Il y a le Max Linder, il y a les salles du 6e un peu moins, parce qu'ils n'ont pas beaucoup modifié leurs écrans. Ce sont les petits écrans, la qualité d'image n'est pas superbe, mais j'y vais jouer à peu près 8-10 films par semaine. Ce qui n'est pas énorme, parce que Laurent qui travaille avec moi en voit un petit peu plus, mais c'est notre métier, donc il faut en voir le plus possible.
C'est pas mal, Isseur.
Oui, mais quand il y a 15 films qui sortent par semaine, je ne sais pas comment font les gens, mais même à deux journalistes pour une émission de cinéma, parfois on n'a pas le temps de voir tous les films. Je me souviens d'une phrase de Truffaut qui disait « Pour vraiment critiquer un film, il faut le voir 3 fois ». Vous imaginez, 15 films par semaine, ça doit être... ça doit être compliqué, mais il y a trop de films de sorte. C'est un problème de riche en France. On est très très chanceux d'avoir autant de films, mais j'en vois que 8 par semaine, 8 ou 10.
Pour revenir au livre, c'est un livre-objet.
Oui.
Pourquoi vous l'avez conçu comme un objet, évidemment, qu'un illustrateur en plus ?
Parce qu'il n'y a plus, parce que le cinéma se dématérialise. On a pratiquement, les DVD vont disparaître, on peut le dire. Je voulais que ça soit un objet, parce qu'il n'y a plus d'objets de cinéma, de moins en moins, et que ça soit un objet qui se triture, et qui a d'ailleurs à peu près le même format qu'un DVD. Et puis, illustré par Yann, en l'occurrence, mais il fait qu'il soit illustré parce que, pour justement désacraliser le bouquin de la fille qui a rencontré tous ces gens, je voulais un peu éloigner cette notion-là, et puis l'enrichir avec le regard de quelqu'un, comme lui, comme Yann, qui lise chaque chapitre et qui est sa lecture à lui, qui ne va pas illustrer De Niro, Sharon Stone, avec juste des portraits, mais qui, avec sa lecture, peut amener une autre signification au chapitre, un léger décalage, ce qu'il a retenu. Et d'ailleurs, chaque dessin symbolise très bien chaque chapitre.
Et vous avez travaillé ensemble, ou c'était... on pose la question à Yann Legendre.
On a travaillé ensemble. Oui, elle était derrière moi et elle regardait chaque ligne. Non, bah on a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on a avancé, on va dire, trois images par trois images, pour que ce soit possible, et puis qu'on ait l'impression d'avancer sous forme de séquence plutôt que simplement une image isolée.
Tu voulais le faire dans l'ordre, d'ailleurs.
Alors, je voulais le faire dans l'ordre, parce que le piège, c'est d'aller vers les artistes, ou en tout cas sur les histoires qui me plaisaient le plus. Le problème, alors bon, je ne vais pas dire qu'il y en a qui ne me plaisent pas, mais je veux dire, la difficulté sur ce type d'ouvrage, quand on a justement des chapitres qui sont déconnectés les uns des autres, c'est d'aller vers ceux qu'on préfère et puis garder ceux qu'on aime le moins pour la fin. Donc ça veut dire que la fin est en général une souffrance inouïe, puisqu'on n'a plus de délai, on n'a plus d'argent et on n'a que des chapitres qui ne nous intéressent pas à faire. Donc, je plaisante, mais... Non, on a avancé dans l'ordre. Et puis en fait, l'ordre, c'est un avantage énorme, c'est que ça nous permet aussi... parce qu'il y a, on va dire qu'il y a trois niveaux d'illustration. Il y a parfois un portrait, parfois il y a une image métaphorique qui vient en contrepoint par rapport au texte, et puis d'autres fois ce sont par exemple des scènes, comme si chaque texte avait été filmé. Donc du coup, moi j'ai dessiné une des scènes de ces petits courts-métrages, et donc pour ne pas justement avoir systématiquement les mêmes illustrations qui se répètent, c'était bien de le faire dans l'ordre pour pouvoir justement alterner les différents regards, on va dire. Voilà.
Mais je lui ai laissé libre choix, c'est-à-dire que parfois il m'appelait pour me mettre sur une piste, etc. Mais moi je préférais découvrir. Ma plus grande découverte, c'était Lars von Trier, parce que c'était important. Et il a exactement touché le point d'ancrage qui est la mégalomanie de Lars von Trier. Bon, il y a d'autres notions, il n'est pas juste mégalo, mais en ouvrant son manteau sur lui plus lui... plus son côté un peu voyeur, son côté un peu
pervers,
oui. Et c'était des belles surprises, c'est génial. C'est comme si c'était un deuxième livre qui se faisait. Je découvrais à chaque fois une autre vision, donc c'était très joyeux.
Une jolie aventure.
Oui.
Le titre, Adieu cinéma, enfin l'amour.
Oui.
Pourquoi ?
En fait, c'est pas... oui, il y a le film qui s'appelle Peindre ou faire l'amour... mais qui n'était pas dans un coin de ma tête. C'était aller au cinéma ou faire l'amour, ça veut dire aller au cinéma ou vivre, sur la métaphore de Truffaut, vous savez, qu'est-ce qui est. Et parce que ce sont deux notions tellement éloignées, c'est-à-dire, c'est parti de Marco Ferreri qui m'a dit un jour, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans une salle de cinéma? Je dis, mais non, jamais. Je peux même pas l'imaginer. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait l'amour dans des salles de cinéma. Ça doit être quelque chose d'assez excitant. Moi, ça m'a jamais excité, parce que c'est deux plaisirs qui ne se consomment et se consument pas en même temps. C'est-à-dire qu'on peut pas.
Comme c'est... tu l'as dit, en plus, tu es une nonne dans une salle de cinéma.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai jamais touché le bras d'un amoureux dans une. C'est le film et le film et le film. Ce sont deux. Et en plus, il y a pas mal de parallèles. Ce que j'explique, c'est-à-dire que vous êtes seul dans le noir avec plein de gens autour de vous, et un film, c'est un peu comme un acte d'amour avec des prémices. Ensuite, il y a un développement, et puis il y a un climax et une montée, et puis après le générique arrive. Et je sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez au cinéma, quand vous sortez, Enfin, moi, je sais pas, ça me fait cet effet-là. Je trouve que le sol est un peu mou. Vous avez plus trop de repères. Vous sortez, vous êtes un petit peu entre le cinéma et la vraie vie. Dans les mauvais cinémas où vous sortez, il y a une espèce de couloir un peu sordide, avec des graffitis, ça sent mauvais. Et puis d'un coup, vous avez la rue dehors. Et puis, vous êtes avec des gens où vous dites, ça va, t'as aimé, un peu comme après l'amour, c'était bien. Vous pouvez pas le dire tout de suite. Il faut que le film mûrisse en vous et vous attendez un petit moment avant de le dire. Je trouve que ce sont deux choses assez parallèles, quoi, qui ne se croisent pas. Donc en gros, l'idée, c'est la métaphore de vivre ou aller au cinéma, qui est un vivre dans être dans la fiction ou vivre vraiment les choses.
C'est un thème qu'en tout cas, c'est quand même l'émotif, j'ai trouvé, parce qu'il y a deux citations. Une citation de Tarkovsky, dit « Il ne faut pas séparer la vie et le cinéma ». C'est un cinéaste qui vous dit ça. Puis après, on retrouve un peu la même idée entre la vie et le cinéma, le rapport entre l'art et la vie, ou le cinéma et la vie. C'est où vous faites une référence à Ferrara, où dit il aimerait ressembler à Pasolini, qu'il admire par-dessus tout, avec cette capacité à confondre la vie et le cinéma.
Oui.
Donc c'est quelque chose qu'on dirait que les cinéastes que vous aimez, c'est ceux qui mélangent pas qui mélangent le cinéma et la vie.
Oui, un peu comme Coris Maki d'ailleurs. Coris Maki est un cinéaste que lui, c'est ses films, c'est lui. C'est-à-dire que ça peut pas se, c'est-à-dire que c'est intrinsèque. C'est un homme, ce sont des hommes cinéma, un peu comme
Herzog.
Oui, Ken Loach, comme Lars von Trier. Ce sont des êtres de cinéma qui ne respirent. Moi, j'aime bien ces cinéastes pour qui c'est une question de vie ou de mort. C'est ça. C'est-à-dire que c'est du cinéma et rien d'autre. On peut pas s'exprimer autrement. Presque on meurt, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc de survie pour eux, le cinéma. Et, bon, c'est là où je suis romantique, voyez. Où je prends ça très au sérieux. Pour moi, c'est exercer un art, c'est ça. C'est ça et rien d'autre. C'est-à-dire que c'est très très important pour eux, quoi. Quand Ferrara dit qu'il veut ressembler à Pasolini, il y arrive peut-être pas. Il le fait à sa façon, mais il y a des gens qui perdent des années, leur argent, leur amour, leur vie pour faire des films. Et je trouve ça admirable. Admirable de livrer ça au public. Donc c'est important. Il y a des films dont on sent que c'est très important qu'ils aient été faits. Je ne parle pas de plein de films qui sortent en ce moment. Mais je ne sais pas, quand on voit un film de Coris Maki, on sait tout de suite qu'on est chez Coris Maki. On voit les couleurs, les cadrages, les lumières, la façon de parler, ce sont des atmosphères, des auteurs complets, mais vraiment complets. Lars von Trier est pareil aussi. C'est une folie qu'il a en lui, mais c'est une vraie... Oui, mais il a eu une vie de dingue, et c'est sa façon de s'exprimer. C'est un type qui tremble tout le temps, qui est bourré de névrose, et il passe par le cinéma pour pouvoir survivre. Et moi, c'est vrai que quand je les rencontre, je les prends au sérieux, quoi. C'est-à-dire que c'est important. C'est comme Herzog aussi, qui vous dit qu'il est envahi par le cinéma, qu'on lui dit qu'il entend les appels pour faire des films, qu'il doit y répondre. Ça paraît fou comme ça, mais moi, je pense que c'est vrai.
Donc, le livre aussi a un témoignage aussi concret de la vie d'un critique d'art. Alors, il y a des choses que je ne connaissais pas, par exemple, le terme de junket. Vous nous en parlez, ce que c'est, les junkets?
Ouais, c'est un sacré truc, le junket. C'est surtout les Américains qui organisent ça. Quand une grande star américaine vient à Paris, ça se passe dans une suite d'hôtels. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Et comme le monde est devenu de plus en plus grand et on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de journalistes, donc on ne peut pas accorder une demi-heure par personne. Donc on fait des tranches de... Alors, à une époque, c'était un quart d'heure, puis 10 minutes. Certaines stars demandent 4 minutes. Vous avez parfois des flashs de 4 minutes pour rencontrer quelqu'un. Moi, je compare ça avec la prostitution, si vous voulez. C'est-à-dire que... ouais, ils sont là et on passe et tout. Et il y a un journaliste norvégien, suédois, espagnol, italien, et chaque fois, c'est... on retrouve cette personne avec l'affiche du film derrière et il faut être... c'est impossible d'avoir un échange en 4 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Donc, c'est ça un junket. C'est terrible et c'est de plus en plus le cas pour les stars américaines qui viennent à Paris. Alors que les épisodes que je raconte dans le livre, c'était à une autre époque où on avait le temps un petit peu avec eux, de les suivre dans les festivals. Ou à Cannes, on faisait des interviews sur la plage. On pouvait raconter des histoires. Maintenant, ils sont tous enfermés sur les plages qui sont bordées, dans les suites d'hôtels, et il se passe plus grand chose en fait.
Justement, dans les petits épisodes que vous racontez, vous à la fois vous cherchez à surprendre oui. les cinéastes ou les acteurs que vous rencontrez, et des fois c'est le contraire, c'est les cinéastes ou les acteurs qui vous surprennent. Oui. On peut commencer par les petits épisodes où vous avez essayé de surprendre les cinéastes, et les tactiques, les stratégies que vous avez employées.
C'est pas une stratégie, c'est-à-dire que c'était à la télévision pour Canal+, on avait des reportages à faire. Il fallait faire des choses un peu symboliques pour eux. Il fallait en image symboliser l'univers d'un cinéaste, en gros. Je peux citer Wenders, par exemple. On me propose d'interviewer Wenders. Wenders, je suis jeune journaliste, c'est pour la télévision. Je me dis, Wenders, c'est quoi Wenders? C'est Wenders, c'est le temps. Il a beaucoup parlé du temps au cinéma. Et donc, je me dis, comment symboliser le temps en image? Compliqué. J'étais allé au Palais de la Découverte 15 jours avant. Et au Palais de la Découverte, il y avait une pendule qui était projetée sur le sol du Palais de la Découverte, une pendule énorme. Et je me suis dit, je vais faire marcher Wenders sur le temps. C'était un fantasme comme ça, mais je vais dire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais lui demander de raconter l'histoire de son film en marchant sur le temps. Et il a tout de suite aimé. C'est ça qui était formidable avec lui, c'est-à-dire qu'il a tout de suite pigé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez une idée, tout d'un coup, elle se matérialise, quoi. Wenders arrive, vous lui dites ça, et on installe deux caméras, et il répète, et tout d'un coup, il commence à midi, et puis il commence à raconter son histoire, comme ça, et il tourne autour, et ça y est, l'image est là. On n'a pas besoin de lui poser 15 questions sur le film, c'est juste qu'il a été symbolisé à travers une image, le temps. Mais j'ai fait ça avec d'autres personnes. Il y a un truc que je raconte pas dans le livre, c'est comment s'appelle-t-il l'acteur du pianiste Adrian Brody, qui avait fait un film de Ken Loach qui s'appelle Bread and Roses. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est sur les femmes de ménage aux États-Unis qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont exploitées, et Adrian Brody joue un syndicaliste qui va les aider. Et dans une scène, il doit être caché, et donc les femmes de ménage le mettent dans une grande poubelle comme ça, et lui font passer un petit couloir pour le cacher. La scène est très drôle. Arrive Cannes, et je me dis, je vais essayer de le restituer, lui faire retrouver les conditions. Je vais dans le grand hôtel, je leur demande une grande poubelle. Il me donne il me dit oui, il y a une poubelle là. On la nettoie. Arrive le jour. Et je dis à Adrian Brody, voilà, j'aimerais vous mettre dans une poubelle, faire l'interview dans la poubelle. C'était pour Canal+. Il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Je dis, mais oui, ça va, on va retrouver les conditions du film. Et finalement, il s'est installé dans la poubelle. Et j'ai poussé la poubelle à travers le jardin, comme ça. Mon cadreur était là, l'ingé son était de l'autre côté. Et on a fait toute l'interview dans la poubelle. Et eh ben, il a retrouvé les conditions du tournage, en fait. Et il est passé devant Ken Loach, qui était lui, faisait l'interview. Il a dit, tu vois ce que je dois faire pour parler de ton film? Et ça l'a beaucoup amusé. Et il a retrouvé les conditions du tournage. Mais c'était une idée qui avait l'air bête comme ça. Mais en fait, je voulais provoquer quelque chose, vous voyez. Pareil que lui poser des questions, le film, ça raconte quoi, et Ken Loach, il travaille comment, etc. Il était dans une position inconfortable, mais du coup, il m'a raconté des choses différentes.
Vous avez fait taire De Niro.
Oui. Non, parce que De Niro, je l'avais déjà rencontré, c'est un acteur extraordinaire, mais c'est un acteur qui n'aime pas parler. Il parle, mais ça l'ennuie. Il répond aux questions, mais... Je l'avais fait deux fois déjà, et je voyais qu'il était un petit peu en roue libre par rapport aux questions qu'on lui posait, même si on essayait de trouver des questions un peu... Et du coup, comme il est tellement expressif à l'image, c'était à Venise au festival de cinéma, je suis allé le voir en disant « vous n'aimez pas parler ». Il m'a dit « Je lui ai dit « je vais vous demander de vous taire ». Je vous filme pour Canal, je vais vous demander de vous taire pendant une minute, et deux... rien dire, mais deux, à travers vos yeux, de me raconter, faites ce que vous voulez, mais ne parlait pas. Et on a mis la caméra devant lui, il a accepté. C'était dans une grande suite, je me souviens. Et j'ai dit, je l'ai dirigé, en gros, j'ai dit « Silencio !» Et ça a commencé. Et puis, il a joué le jeu complètement. Il a pris un verre d'eau, il a bu, il m'a regardé comme ça. Il a fait un air méchant, il a fait un air interrogateur, il a souri. Et à ce moment-là, effectivement, ces films sont passés dans ses yeux. J'ai revu des morceaux de Taxi Driver, Il était une fois en Amérique, j'ai revu plein de choses. Et à la fin de la minute, il m'a fait « one minute ». C'était bon, et il est parti. Et j'ai eu cette minute de silence qui m'a exprimé beaucoup plus que les deux interviews que j'avais eues avec lui avant. Et il a joué le jeu, parce qu'il est assez joueur.
Bon, il y a des cas où vous avez été surpris par des cinéastes. Bon, je pense à Lars von Trier ou à Abel Ferrara, par exemple. Peut-être Abel Ferrara, peut-être le plus surprenant. Peut-être, ou vous en avez peut-être d'autres. Vous avez été surpris par des cinéastes.
C'est Herzog le plus incroyable. C'est pas celui que je préfère entre von Trier ou Ferrara, mais Herzog, c'est l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré dans ce métier. C'est-à-dire, c'est une tronche, c'est un cérébral, c'est un fou. Et c'est un Allemand, en même temps, qui est très, très carré. Quand on commence, il dit combien de temps est l'interview ? Je lui dis 10 minutes, un quart d'heure. Et si on dépasse, c'est terrible. Et il a des réponses extrêmement surprenantes. Il est complètement absolu, il est complètement possédé. Il est toujours inattendu dans ses réponses, comme Lars von Trier d'ailleurs. C'est des gens passionnants à rencontrer parce qu'ils sont jamais là où vous les attendez. Ils sont toujours dans la marge, ils font toujours un pas de côté, ils ont toujours une idée folle, ils ont une façon de parler du cinéma qui est extrêmement originale, rêveuse ou psychanalytique. Ils sont toujours, moi je suis toujours ébloui par la façon dont ils racontent leur... Et aucune question, surtout aucune question ne les perturbe. C'est ça qui est fou. Vous pouvez leur poser des questions folles, ils vont toujours répondre à des questions folles.
30 ans de rencontre, comment vous avez choisi celle-ci et pas d'autres ?
J'ai choisi celle où il s'est passé quelque chose. Ce que j'appelle des épisodes. Non, c'est vrai, il ne s'est pas toujours passé des choses. J'ai rencontré, par exemple, j'aurais pu faire un chapitre sur Meryl Streep, mais il s'est passé un tout petit peu. Ce sont des gens où il s'est passé vraiment il y a eu des échanges, des accidents, des incidents, où des gens m'ont parlé vraiment, où ils se sont vraiment révélés. Et les autres ont été des interviews intéressantes, mais à chaque fois, j'ai puisé une petite aventure humaine avec chacun. La solitude de Sharon Stone, la folie de Herzog, le côté un peu détraqué de Ferrara, la générosité de Malkovich, tout à fait inattendue, l'inconscient de Stephen Frears qui fait des films sur des femmes très fortes et il s'en rend pas compte, enfin il veut pas s'en rendre compte, mais voilà, sur des choses qui se sont passées vraiment. Il ne se passe pas souvent des choses dans l'interview. Hein. Il y a questions, et puis parfois, il y a des... Sharon Stone, il y a une panne d'électricité, et tout d'un coup, elle me dit un truc vrai, quoi. Mais c'est rare.
Alors, je me posais la question, est-ce qu'il y a des cinéastes ou des acteurs que vous n'avez pas encore rencontrés, que vous rêvez de rencontrer ?
Al Pacino. Mais il est un peu vieux maintenant. Non, il est vieux, c'est-à-dire il n'est pas vieux, il a fait tellement de choses déjà que c'est... Nicholson, que j'ai rencontré en conférence de presse, mais qui ne fait jamais d'interview seul à seul. Donc je suis allé à une conférence de presse, j'ai posé le maximum de questions possibles, mais j'ai jamais pu l'avoir. Mais je préfère les metteurs en scène, je suis plus intéressé par les metteurs en scène.
Bon, à quel metteur en scène vous n'avez pas rencontré ?
Michael Mann. J'ai été déçu par David Fincher. Vous connaissez David Fincher, tout ça, qui était un petit peu assez désagréable. Et c'était une rencontre d'hôtel de 10 minutes, donc c'est très compliqué d'avoir un vrai rapport en 10 minutes. mais qui a été un petit peu méprisant.
C'est des hommes.
Bon, justement, c'est-à-dire
vous dites que les cinéastes sont des hommes.
Oui.
Vous rencontrez, ce sont évidemment des cinéastes, mais vous rencontrez l'homme.
Oui.
Et c'est la question que je me posais. Ce désir-là de rencontrer l'homme derrière l'œuvre, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de rencontrer le créateur d'une œuvre qu'il admire.
Oui. Par exemple, il y a un cinéaste que j'admire énormément qui s'appelle Paolo Sorrentino, qui a fait La Grande Bellezza, que j'adore depuis le début. Mais qui n'est pas un type bien. C'est-à-dire que. Il n'aime pas rencontrer la presse. Non, il aime. C'est fou. Il est méprisant comme ses personnages. En fait, il ressemble beaucoup à ses films. Il est comme Tony Servillo dans La Grande Bellezza. Mais j'ai essayé plusieurs fois. Hein. Et la dernière fois, c'était pour le dernier film avec Harvey Keitel. Et je me dis, allez, j'essaie encore une fois. Et s'il est désagréable avec moi, je quitte l'interview et je l'engueule. Ben, il a été sympa avec moi cette fois-là. Et en fait, en lui posant des questions, je me suis rendu compte. Je lui dis à un moment, je lui dis, mais en fait, vous aimez bien qu'on n'aime pas vos films. Il m'a dit oui. Et je lui dis, est-ce que vous vous êtes battu avec des critiques? Il m'a dit oui. Et j'ai physiquement, oui. Et en fait, moi, j'aimais trop ces films. Je pense que ça ne l'intéressait pas. C'est quelqu'un qui aime bien être dans la confrontation.
J'étais intrigué parce que vers la fin de l'ouvrage, je vous dis, dans quelques jours, je vais rencontrer un tout nouveau cinéaste. J'ai très envie de savoir quelle personne se cache derrière son film. Quel est cet homme qui a su, à ce point, éveiller ma conscience et me troubler? C'était qui?
Thomas Caillet, qui est l'auteur d'un film qui s'appelle Les Combattants. Ouais, qui est un premier film français. C'est un film remarquable parce que c'est un garçon qui a... C'est déjà un cinéaste. C'est-à-dire que tout est contrôlé. On sent que chaque scène est là, à sa place. Tout est pensé, écrit, dirigé. Mais voilà, c'est un vrai auteur. Et c'est là où c'est merveilleux, ce métier, parce que quand on découvre des nouveaux cinéastes sur la planète, on se dit, ah oui, on n'en découvre pas tous les jours. Et quand on voit Les Combattants, on se dit, ah, il y a un nouveau cinéaste qui est arrivé.
Dans le livre, vous parlez beaucoup de cinéastes, mais pas beaucoup de films, en fait.
C'est vrai.
Et je me demandais, ben voilà, quels étaient les films que vous aimez ou qui vous faisaient rire, pleurer, enfin voilà, votre rapport au film, pas au cinéaste, pour le coup. Yann.
Il y en a des centaines, mais en fait, je dirais qu'il y a pour moi, les films, bon, comme je ne les vis pas tout à fait comme Christine, je les vis sous un angle qui est un peu différent. Vu que je suis créateur d'images, forcément, il y a aussi une recherche que je fais dans les films qui est celle de la qualité des images. Donc je suis attiré vers un cinéma qui est beaucoup plus grand spectacle depuis peu. J'étais plus sur des cinéastes d'auteurs et maintenant je suis plus sur des films grand spectacle. Évidemment, Spielberg fait partie du top 10. Et puis d'autres comme Carpenter, comme Wim Wenders, Jim Jarmusch, etc. Donc ouais, c'est vrai, je pense que comme tout le monde, j'ai mes petits films que j'aime bien regarder quand je suis fatigué, dans mon lit tranquillement sur un ordinateur, donc ça on est loin des grandes salles, voilà. Et puis évidemment, puis il y a des films qui ne peuvent se regarder que sur très très grand écran, et c'est ceux-là que j'affectionne le plus, quoi. Là, j'ai pas de film comme ça. Et pour moi, le plus grand film que j'ai vu, que je continue de voir, c'est-à-dire que c'est, en gros, c'est un film que je regarde en gros une fois tous les mois, c'est Rencontre du troisième type de Spielberg. Je pense que pour moi, ce film-là réunit tout ce que les films peuvent réunir, c'est-à-dire que c'est à la fois un film social, c'est à la fois un film d'horreur, c'est à la fois un film spéculatif sur le futur de l'homme. C'est à la fois une critique sociale comme jamais j'ai pu la voir ailleurs dans un film de cette ampleur-là, parce qu'évidemment il y a des films plus minimalistes qui ont pu atteindre le même niveau. Et puis enfin, c'est un film qui montre quelque chose qui est le plus dur à mon avis à filmer, qui est l'espace. C'est technique, c'est-à-dire qu'en fait, plus on fait un plan rapproché, plus on est dans la simplicité, plus on fait un plan large et plus on est dans la difficulté. Vous pouvez imaginer pourquoi, il y a quelqu'un qui passe, il y a un nuage, il y a un avion, etc. Donc, et puis la caméra aussi, c'est un petit format. Donc ce qu'on voit en petit, en fait, est censé être ensuite diffusé en très grand, donc il peut y avoir des défauts qui nous échappent. Donc voilà, filmer en très grand, c'est le propre de ce film. Spielberg filme sur une caméra... film en plan très très large, et parfois même, il racontait plusieurs années après qu'il avait découvert des détails dans le film qu'il n'avait pas vu à l'époque où il avait tourné le film. Donc en haut de tout, pour moi, c'est ce film-là. Et puis après, j'ai des films, on va dire, plus d'amateurs, comme par exemple le film de Carpenter, j'ai oublié le titre en français, New York 1997, Escape from New York. Yeah. Ce film-là fait partie, évidemment, j'adore ce film parce que c'est brutal. Le cinéma de Carpenter, c'est un cinéma brutal, grand public.
Christine, exactement.
C'est la première question que je lui ai posée quand on s'est rencontrés, c'est est-ce qu'elle avait vu le film de Carpenter. Ouais. Et puis j'adore les comédies hollywoodiennes aussi. J'en ai vu une qui est extrêmement mauvaise et que je conseille à tout le monde qui vient de sortir. Je ne sais même pas si elle est sortie en France, c'est Christmas Office Party.
Birthday Party.
C'est ça, Birthday
Party. Ça va sortir dans 8 jours. Ouais.
Voilà, ce film m'a touché parce qu'en fait, il est filmé dans ma ville, la ville que j'aime beaucoup, qui est Chicago, où j'ai vécu longtemps. Et il est filmé là où je me suis marié, dans l'immeuble où je me suis marié. Donc en fait, les salles qui sont maintenant, qui ont été dans le film aménagées en bureau, c'était les salles en fait de la réception de mon mariage. Donc c'est plutôt rigolo. Le film avec Jennifer Aniston, c'est un très très mauvais film. Je me suis marré du début à la fin, je vous le conseille vraiment. Ça sort bientôt.
Est-ce qu'il y a des films qui vous font pleurer par les émotions, c'est basique.
Ils me font pleurer pour justement les qualités esthétiques, mais ils ne me font pas pleurer pour les sentiments en fait. Je peux être touché par des personnages. Encore une fois, ce que j'aime dans les films, c'est les fictions. Je suis de moins en moins amateur des films qui me rapprochent d'une réalité, celle que je vois de tout. Par exemple, les films romantiques sérieux, enfin, on va dire les comédies dramatiques sérieuses autour des sentiments humains m'embêtent de plus en plus. La Nouvelle Vague, je ne supporte pas les films français de La Nouvelle Vague, à part quelques-uns de Godard, mais ils sont... Voilà. Je me fais des ennemis. Par contre, les films de Clint Eastwood peuvent me toucher énormément. Justement, ils ne me font pas pleurer, mais Clint Eastwood dans
Sur la route de Madison, ça t'a fait pleurer.
Voilà, exactement. Voilà, mais je peux pleurer pour la qualité d'une image, par exemple. Ça, c'est clair. Là, ça peut... C'est très bizarre d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui pleure pour la qualité des images alors que tout le monde se marre, mais c'est vrai qu'en général, moi, ça m'arrive. Ouais. Voilà, ou par exemple, j'ai vu un film dernièrement qui est Manchester by the Sea. Là, j'étais vraiment très touché par le personnage. Quoi. Vraiment.
Il a fait Margaret qui est très beau aussi.
Oui, exactement. Moonlight aussi, ouais. Magnifique. Mais aussi des comédies légères. La La Land, par exemple, moi j'ai adoré
c'est
La La Land.
Pas une comédie légère, La La Land.
Alors il est présenté comme étant une comédie. Alors,
c'est un film très noir. Je trouve que c'est une vision très noire. Les gens le prennent comme un feel-good movie, comme disent les Américains. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je trouve que c'est en fait, très désespérant ce film.
Alors, c'en est un pour les jazzman. C'est-à-dire que pour les jazzman, ça reste une comédie légère parce que le jazz est bien plus, on va dire, socialement atteint que ce que le film montre. Mmh. Donc c'est pour ça que sous l'angle de la musique, d'ailleurs les grandes critiques qu'il y a eu aux États-Unis venaient en général des musiciens qui ne se sont pas forcément retrouvés dans le film. Mais c'est une comédie musicale, donc il y a quand même très peu de comédies musicales dans lesquelles on peut vraiment se retrouver ou s'identifier. Mais en tout cas, le film est majestueux. Je trouve qu'il est la scène d'ouverture, elle est absolument hallucinante. Filmée sur les highways de Los Angeles.
Tournée en un week-end, ce qui est fou.
Absolument dingue, c'est absolument dingue. Ouais. Et puis voilà. C'est un film très léger comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai senti comme étant un film plutôt léger, puisque c'est une comédie. J'ai trouvé que c'est une comédie romantique.
Mais bon. C'est un peu aller au cinéma. Oui, le film, c'est un peu aller au cinéma ou faire l'amour. Je ne veux pas du tout comparer à quoi que ce soit, mais en gros, c'est quand même le sacrifice d'une vie amoureuse pour une carrière. C'est-à-dire qu'à un moment du film, est-ce qu'elle doit le suivre en tournée ou pas ? Elle ne le suit pas, elle reste dans son petit théâtre avec 3 spectateurs pour ensuite devenir l'actrice qu'elle devient. Et d'ailleurs, à la fin, il y a tout un petit film sur ce qu'ils auraient pu vivre ensemble. Mais c'est extrêmement noir là-dessus.
C'est très mélancolique.
Très mélancolique.
C'est la partie justement moi qui m'a vraiment gêné. C'est la mélancolie. Je trouvais que c'était la partie la plus gratuite du film. Si le film s'était arrêté avant cette scène-là, encore une fois, je suis pas metteur en scène, donc c'est vraiment une opinion d'un amateur. Mais je pense que si le film s'était arrêté juste avant cette scène-là, le film j'aurais trouvé encore plus beau parce qu'il nous laissait le potentiel d'imaginer ce qui allait se passer. Et ce feedback comme ça, de revenir en arrière, d'avoir cette sorte de mélancolie lourde, moi, c'est vraiment la scène que j'ai pas aimée.
D'ailleurs, dans Whiplash, au film précédent, il abordait exactement le même thème. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec sa petite amie Il convoque sa petite amie au restaurant et lui dit, en gros, je vais devenir très connu, donc je vais plus avoir beaucoup de temps pour toi. Et il la lâche pour son entraînement, quoi.
C'est plus honnête, je trouve, là.
Et, ouais. Et voilà un metteur en scène passionnant. Alors lui, je l'ai rencontré 10 minutes, mais 10 minutes géniales. Très brillant. Il a 31 ans. Il est fascinant, ce garçon. Il a appris, il filme depuis qu'il a 8 ans. Il a mangé toutes les comédies musicales, il les a ingérées, il leur rend hommage, en même temps il le fait à sa façon. Il ira très très loin. Ouais, non, mais j'ai senti un esprit. J'irais même jusqu'à le comparer. Vous savez quoi? J'ai eu l'impression de rencontrer Kubrick jeune. C'est fou, hein? J'ai jamais rencontré Kubrick. Mais j'ai eu l'impression de rencontrer un monstre, quelqu'un d'extrêmement doué. C'est rare ce genre d'impression quand on rencontre des gens.
Il est moitié français.
Il est moitié français, ouais. Il parle pas très bien français, mais il est moitié français, ouais. Ouais. Il est pas du tout ébloui par ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il veut bosser. Ce film, ça fait 8 ans qu'il l'avait en tête. Il a dû faire Whiplash avant, et il fait celui-là. Et son prochain, c'est sur John Glenn.
Pour finir, peut-être sur juste la cinéphilie, est-ce qu'il y a des grands classiques que vous n'avez pas vus ou qui vous résistent ou que vous n'avez pas envie de voir ou...
Eh ben alors, en ce qui me concerne, je crois que je vous ai répondu, c'est la nouvelle vague française dans sa globalité. À part quelques films de Jacques Demy, sinon, et c'est vrai que la plupart, j'arrive vraiment pas. Donc voilà, j'ai ça encore à faire dans ma vie. Quoi.
Continuation, est-ce que vous en avez classique que vous n'avez pas vu?
Moi, j'ai écouté un jour Chabrol qui disait on ne peut pas être critique de cinéma si on n'a pas vu L'Aurore de Murnau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film extraordinaire, que j'ai découvert donc très tard. De même que Salo de Pasolini, que j'ai mis beaucoup de temps à... Mais on n'est pas pressé, quoi. Cela dit, il y a des films qui ont été très importants à une époque, qu'on voit maintenant, on se dit, ah bon, c'est ça? Il y a des films qu'il ne faut pas voir trop tard non plus. J'ai dû faire des impasses, mais oui, comme tout le monde. Mais j'ai pas de hier, quoi. J'ai pas de cinéaste dont je me dis, il y en a avec lesquels j'ai quelques problèmes, mais non. Et puis moi j'ai eu ma période Truffaut. J'ai vu toute la série des Douanel. J'ai eu ma grande période Éric Rohmer. Et puis après les Américains, etc. Donc j'ai pas par strat.
Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci.